Je vous parle de mon fils et j'espère, mes fils, que je ne leur ai pas transmis trop de peurs intergénérationnelles. Et j'en discute avec Ginette Bureau, autrice d'un livre qui s'appelle « Guérir la mère, transmission inconsciente » chez Fides. Elle est aussi doctorante sur le sujet du moi dans l'autobiographie et le soi des rituels. Bonjour Ginette.
Bonjour Chantal. Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
C'est on transmet pas les peurs qu'on n'a pas nous-mêmes.
Ah.
Habituellement, on transmet quelque chose d'inconscient. C'est celle-là qui est le plus agissant. Mais je vais te laisser aller avec tes questions. Je ne sais pas par quel bord tu veux prendre le récit essai. Là. C'est une recherche en même temps que je raconte par ma propre expérience. J'essaie de démontrer les transmissions inconscientes, puis j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire.
Oui.
Je le fais, puis je le donne en cadeau.
C'est ça, effectivement, on va camper ça pour les auditeurs. Vous n'êtes pas une psychothérapeute ou une spécialiste de la transmission, mais vous avez vous-même vécu, pris conscience à quel point il y a certains sujets là, qui se transmettent, et vous avez décidé d'en tirer un livre dans lequel, en fait, qui est un essai. Vous avez fait... excusez le terme, comme disent les complotistes, vous avez fait vos recherches sur le sujet, ça vous a amené à documenter le sujet, et c'est donc un livre qui est, ma foi, fort intéressant, là, vraiment entre le récit et l'essai, et c'est ce qui m'a amené de la curiosité de dire justement qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre?
Bien, moi, j'ai assisté par hasard, écoute, il y a plusieurs motivations, mais il y a un déclencheur. Puis j'ai assisté à une conférence qui s'appelait une conférence psychogénéalogie sur la psychogénéalogie puis l'analyse transgénérationnelle, avec sous-titre « Comment se dégager du poids des transmissions familiales inconscientes ». Et puis là-dedans, bon, on parlait de mémoire qu'on transmet à nos enfants, à nos petits-enfants, puis comment les petits-enfants sont l'histoire, finalement, des parents puis des grands-parents. Et ça m'intéressait beaucoup. J'ai d'abord été du côté de la lumière, parce que je me disais, si, parce qu'il paraît que quand on n'a pas vécu un deuil dans la vie, ou un excès qui a été dissimulé, ou quelque chose qui a été caché, ce secret-là peut être réactivé dans un être plus sensible de la lignée. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je portais, là, mais moi, il y avait des enfants qui étaient réanimés en moi. Et puis, après avoir été chercher du côté de ma famille, parce que je me disais, hey, j'ai eu toutes sortes d'épreuves dans la vie, j'ai perdu une fille il y a 15 ans, tout ça. Et je finissais toujours par rebondir à la vie, puis je voulais aller chercher, c'est quoi mon goût de vie, où je l'avais pris. Donc, j'ai fait une recherche dans l'histoire de ma famille.
D'accord.
Du côté de mon père. Et puis là, j'ai vu que fouiller dans nos racines, ça nous fortifie. Et c'est au lendemain de l'apparition de cette histoire-là, de mon histoire de famille, que est arrivée une espèce de crise dans ma famille qui m'a obligée à faire une recherche. Et ça a été le déclencheur. J'avais une faiblesse en moi, une faille qui s'animait beaucoup. Je savais avec ma tête que ça n'avait pas de bon sens. J'ai fait plein de recherches pour la maîtrise, pour le doctorat, la différence entre le moi, le soi. J'ai travaillé fort pour me connaître. Puis je me disais, pourquoi que cette affaire-là me dérange autant? Qu'est-ce que je porte?
Vous essayez de voir qu'est-ce qui vous appartient à vous dans votre histoire personnelle et ce qui appartenait à la lignée familiale.
Je ne savais pas à ce moment-là. À force d'avoir mal puis d'aller chercher de l'aide, j'ai dit, ben écoute, je veux savoir pourquoi. Pourquoi ça me fait si mal? Puis pourquoi je le prends? Puis bon, tous ces pourquoi-là, tu as vu dans le livre que finalement, je suis allée en EMDR.
Donc, expliquez-nous en quelques mots
EMDR, c'est le Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ça veut dire en français une désensibilisation et un retraitement des informations par le mouvement des yeux. On ne sait pas pourquoi que ça marche, mais les yeux, quand ils vont de gauche à droite, ça fait une trentaine d'années que le traitement existe. Pendant que tu es dans une espèce d'état second, le thérapeute, il va chercher une mémoire qui est figée dans ton cerveau reptilien, puis il l'amène à la conscience. Et là, tu vis l'émotion que tu as bloquée quand tu étais petite. Et puis là, ben tu le revis comme si tu avais... Moi, c'était à 2 ans, la mémoire qui m'est revenue. Et puis à ce moment-là, j'ai constaté comment que cette mémoire-là, cet événement-là, avait conditionné ma relation aux autres. Puis j'attirais souvent les mêmes événements pour pouvoir le déloger. Mais j'étais tellement habile à raisonner, puis à analyser, puis que je la vivais pas, l'émotion. Mm-hmm. Puis c'est l'émotion qu'il faut que tu vives, tu veux la débloquer.
C'était une forme de rationalisation. Donc, vous compreniez, mais c'est vous ça. Le viviez pas.
Oui. Puis quand on fait juste analyser puis comprendre, ben il paraît que les spécialistes disent ça met l'émotion ou l'événement en dessous du tapis, comme en banque, puis ça fait de l'intérêt, puis ça fait de l'intérêt, puis il y a tout le temps un déclencheur qui vient leur déclencher, puis tu dis, ben ça n'a pas de bon sens parce que tu le raisonnes. Mais là, plus j'avançais en âge, moins j'étais capable, et plus j'avais l'impression qu'il fallait que j'écoute mes émotions. Et puis finalement, ben, j'ai tombé malade physiquement aussi. Et j'ai connu à la fois le déblocage psychologique et le déblocage physique. Puis c'est le même blocage qui se manifestait dans mon corps, parce que ça finit par se manifester dans le corps, une émotion que tu oublies tout le temps, puis tu veux, tu nies, puis tu veux. Bon, puis j'ai eu toutes sortes d'aides qui ont fait en sorte que j'ai vécu des moments qui m'ont éclairé sur les actions que je devais prendre, parce que finalement, il faut que tu fasses...
Ginette, juste pour qu'on comprenne bien, puis je veux pas... Je sais que c'est quand même un récit public, là, mais on est à la radio. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui éclairait les auditeurs, là, concrètement, sur ce que vous avez vécu?
Est-ce que tu veux parler du déclencheur, ou si tu veux parler de mes recherches? Puis...
Ben, qu'est-ce que vous avez vécu, vous, qui a fait en sorte que vous êtes dit « Ah, voilà, c'est ça! » Puis racontez ce que vous êtes à l'aise, là, mais...
Tu veux que je raconte la petite affaire que... c'est pas si grave que ça, ce que j'ai vécu à 2 ans, là. Mais c'était tellement... je vais essayer de le raconter sans me remettre dans la même émotion, puisque je l'ai tellement pleuré et libéré que ça n'a pas de bon sens. J'ai 2 ans, ma mère est dépressive. Et puis moi, j'essaie de l'aider pour lui faire plaisir. Puis, my God. OK. Je lave la vaisselle. Je suis montée sur une chaise, puis j'essaie de laver sa vaisselle. Et puis je la vois sortir de la chambre, et puis elle est triste. Puis elle apprécie pas ce que je fais. Elle me chicane un peu. Et là, en vivant ça, là, je vais raccourcir l'histoire, là, mais en vivant cette émotion-là, je me suis rendu compte qu'à chaque fois dans la vie, je travaillais toujours pour le bonheur des autres. Puis je me mettais le cœur en avant pour essayer de les aider. Puis j'ai vu comment j'ai travaillé fort toute ma vie pour faire ça, et comment un regard agressif
un sentiment de déception,
ou culpabilisait, ça me jetait à terre au-delà de la... Ça n'avait pas de bon sens. Je savais que, voyons donc, je ne vais pas gâcher une journée pour un petit rabroument de quelques secondes. Tu sais, je le prenais, ça dégagait un bobo en moi, là, qui saignait comme ça n'avait pas de bon sens. Mais quand j'étais plus jeune, ben là, j'allais me faire masser, je me prenais soin, puis je me contrôlais, puis je disais, ben voyons, je vais me reposer, je vais être trop fatiguée, blablabla. Mais là, il est arrivé un événement dans ma vie où j'ai dit, c'est assez, je vais au fond de l'affaire.
Ginette, je vous propose qu'on prenne une petite pause musicale. On continue là-dessus dans quelques instants. Je veux quand même là, qu'on revienne un peu, parce que c'est sûr qu'il y a peut-être des auditeurs qui se demandent là, qu'est-ce que la science dit de tout ça. Donc, puisqu'on parle de l'enfance, je vous offre une chanson de Passe-Partout, mais remixée par Alpha Rococo. Plusieurs des auditeurs plus jeunes ou des parents vont reconnaître « Des fois, j'ai peur ». Des fois, j'ai peur. Chanson de Passepartout, oui. Refaite par Alpha Rococo. C'est joli quand même. Hein?
Oui, oui. Ça nous ramène à nos peurs.
Oui, c'est ça. Ginette, on a 7 minutes ensemble. Je vais vouloir vous parler de votre livre sur les rituels parce que j'ai écrit moi aussi sur le sujet. Mais peut-être juste avant, parce qu'il y a peut-être des auditeurs curieux. Je serais moi-même curieuse d'inviter un psychogénéalogiste. Oui. Géanologue, on verra le bon terme,
mais
je veux vous entendre, là, qu'est-ce que la science dit de ce lien entre corps et émotion? Parce que vous faites un lien que vous dites que vous l'associez.
Oui,
c'est ça.
Entre corps et émotion. D'abord, je voudrais te dire que, bon, la première partie, j'ai raconté mon expérience en MDR, mais dans la deuxième partie, parce que faut en revenir à l'intergénérationnel, j'essaye de comprendre pourquoi que ma mère était pas là pour moi. Qu'est-ce qu'elle a vécu, elle? Qu'est-ce qui l'a bloqué? Alors, je cherche son blocage et puis je passe par ses peurs, par la façon de voir la femme. Finalement, je remonte à sa jeunesse. Mm-hmm. Et pour enfin, à la troisième partie, découvrir son trauma à elle, qu'elle m'a transmis, puis que moi, j'ai transmis à mon âme. Mais ma mère est morte d'un cancer des os, puis les os, c'est fabriqué par la moelle osseuse, et Mona est morte de la leucémie, c'est sa moelle osseuse qui n'était plus fonctionnelle. Alors, je montre les liens qu'il y a entre le corps, qu'est-ce qui a été transmis. Moi, j'ai été épargnée un bon moment parce que j'ai eu le regard du père qui était très positif. J'ai reçu une bonne dose, un bon héritage affectif du côté de mon père. Alors, je me suis... entre le corps et l'esprit, et si l'émotion n'est pas vécue, il y a un blocage dans... entre le corps et l'esprit, il faut finir par écouter l'émotion et tout le monde a du malheur. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas les exprimer parce que dans le temps, il y avait beaucoup de secrets, puis il y avait beaucoup de conditionnements, puis de honte, puis de jugement. Ouais. Parce qu'une fois qu'il est exprimé, il n'agit plus. Le pouvoir qu'il avait à rester secret, à agir en nous, il est perdu. C'est nous maintenant qui l'avons, comme Cyrilie dit, un trauma, une histoire, il faut que ça évolue. Un trauma, s'il reste coincé, ta mémoire est comme morte, elle ne grandit pas avec toi.
Mona, c'était votre fille, Ginette?
Oui, Mona, c'était ma fille. Et puis à 4 ans, on m'a dit qu'elle avait aucune chance de survivre plus de 20 mois. Et puis finalement, elle a vécu jusqu'à 15 ans. Puis je raconte son histoire dans un livre, justement, qui s'appelle Mona. Et puis, ce livre-là, c'est mon 11e titre, « Guérir la mère », pour vous dire comment que cette expérience-là a traversé ma vie, a conditionné mes recherches. Là, je ne me rappelle pas c'était quoi.
Oui, je vais y aller. Mais ceci dit, c'est ça, je vais vouloir creuser davantage tout ce filon-là. En fait, ma belle-mère est psychothérapeute, psychologue, en fait. Elle me disait justement dernièrement, elle me parlait de ce sujet-là, puis elle me disait, il y a des familles où le tchut, le silence se transmet. Des familles tchut, elle appelle ça vraiment comme le silence se transmet de génération en génération. Donc, j'aurai probablement l'occasion de causer de ça avec elle. Mais pour le temps qui nous reste, je voulais vous entendre là, sur votre doctorat parce que vous êtes intéressée à l'autobiographie et le soi des rituels.
Oui, le moi de l'autobiographie et le soi des rituels, puis j'essayais de faire la différence entre le moi et le soi. Et le soi, ben c'est la partie éternelle de l'être. Et l'histoire de notre soi est construite beaucoup par les rituels de notre enfance. Et je me suis penchée sur la perte du sens du sacré dans les rituels. Pourquoi qu'on n'y croyait plus? Et moi, l'écriture, tu sais, un rituel réussi, dit, comment il s'appelle, mon favori, là. En tout cas, lui, il parle de... C'est le type qui a étudié tous les rituels du monde.
Oh, Van Gennep? Anyway.
Non.
Non.
Anyway, lui, il dit qu'un rituel réussi, c'est un rituel qui unit le cœur et la tête. Et pendant cette unification-là, on passe un message. Nous autres, on nous passait le message de Jésus. Et moi... il n'y avait pas de, pendant que je vivais un rituel, je vivais une coupure. Je voyais le pain quotidien, le pain sacré, tout était le bien, le mal. Le mal était toujours du côté du corps, il était toujours séparé de l'esprit qui était revalorisé. J'ai analysé les rituels du perron de l'église jusqu'à l'Internet. Je raconte toutes sortes de rituels et j'ai montré comment on a perdu le sens du sacré. Mm-hmm. Pour retrouver un nouveau sens, et moi, c'est l'écriture qui m'initiait. Je me disais, mais quand j'écris, je suis complètement branchée, mon cœur et ma tête. Alors, ce rituel-là, le rituel autobiographique, que ma recherche s'appelle comme ça, là, c'est vraiment la façon avec laquelle je pouvais unir mon cœur et mon corps et ma tête. Je me sentais toute unifiée quand j'écrivais. Donc, j'essaie de démontrer comment, quand on écoute notre voix intérieure, on est vraiment unifié, puis ça donne un sens à notre vie.
Un petit message en terminant, qui s'inspire de votre expérience, que vous voudriez transmettre justement à nos auditeurs?
Quoi? Un message?
Oui, vous auriez envie de nous dire un dernier message.
Un des moments merveilleux que j'ai connu, c'est quand je faisais des ateliers sur les récits de vie à l'Université du Troisième Âge. J'ai vu des petits miracles se produire par des gens qui commencent par écrire leur récit. Et là, ils voient toute la richesse, ils deviennent le héros de leur histoire. Et puis, c'est des transmissions formidables. Et puis, ça guérit, là. Ça nourrit, ça guérit, ça donne un sens. Fait que je souhaite que tout le monde prenne un crayon. Parce qu'écrire, c'est dessiner sa pensée, puis arrêter de penser que quelqu'un va vous lire. Écoutez votre cœur, puis laissez-le aller. Vous allez voir, vous allez découvrir des beaux secrets qui vont vous aider à vivre.
Ginette Bureau, c'est une excellente conclusion. Ce livre sur les rituels s'appelle « Réinventer les rituels », a été publié en 2012. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation.
Merci beaucoup. Bonne journée, Chantal.
À vous aussi.